VIP, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre. Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, France Inter, c'est maintenant.
Le dimanche pour les cathos, c'est le jour contre le mariage. Bah salut, c'est Thomas de Corse. Ciao.
Sur France Info, je viens d'entendre un syndicaliste qui est interviewé et qui disait, avec plein de bon sens, on ne peut pas nous demander de serrer la ceinture et de baisser le pantalon. Ça me paraît évident. Ouais.
Auditeur de Là-bas si j'y suis, bonjour. Un nouveau phénomène est apparu depuis le 13 janvier. Nausées, maux de tête, irritation, anxiété touchent les défenseurs de l'égalité des droits, en particulier de ceux qui soutiennent le mariage pour tous. Nos experts du collectif Oui 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 ont mené l'enquête. Il s'agit du syndrome BCB, Boutin-Copé-Barjot. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas malade. Vous présentez juste une intolérance à l'homophobie.
On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, au souci, à l'amour, à la haine. Il place toujours devant les yeux un but mesquin et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. C'était Nietzsche dans Aurore 1.
Oui, bonjour Daniel et tous les AMG. J'étais jeudi dernier à un meeting contre le licenciement et pour la convergence des luttes. Il y avait les syndicats, donc Sanofi, PSA, Renault, donc ils se retrouvaient tous un petit peu dans la même galère à des moments différents de lutte. C'était intéressant parce que les étudiants, bien sûr, doivent prendre les choses en main maintenant et prendre le relais parce que ce sont leurs futurs emplois qu'ils doivent commencer à penser. Et donc la première convergence de lutte se passe demain, mardi, rendez-vous 14h devant le ministère du Travail, donc à l'appel de ces différents syndicats. Et malheureusement, je ne pourrai pas en être. Eh ouais, exceptionnellement, là, je travaille en journée. À bientôt, ciao, on lâche rien.
Merci pour tous ces messages, les amis. Et n'oubliez pas, quand tu manges le fruit, pense à celui qui a planté l'arbre. C'est beau, mais c'est pas seulement beau. C'est pratique pour découvrir les angles morts de l'histoire. On le sait bien, il y a des tas de morceaux d'histoire oubliés. Il y a des tas de morceaux d'histoire gommés, parfois des gros, gros morceaux de l'histoire. Deux exemples cette semaine dans la base où j'y suis, l'histoire des Indochinois de Camargue. Ils étaient 20 000, vous entendez, en 1939, en Camargue, transportés là de gré ou de force, à cultiver le riz. Voilà, une mémoire oubliée. C'est Pierre Daume qui a remis cette histoire un peu en avant, qui fait l'objet d'un film, les 20 000 Indochinois de Camargue. Une autre histoire encore plus énorme, celle-là, c'est celle de la bataille de Stalingrad. Cette semaine, le 2 février, on célébrera le 70e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Plus d'un million de morts en 180 jours. La bataille sans doute la plus cruelle, la plus énorme, la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité, qui a fait dire à Churchill, les gonds du destin ont tourné à Stalingrad. Et en effet, la défaite de l'Allemagne nazie allait entraîner le balancier dans l'autre direction, dans cet hiver terrible de 1943. Voilà des angles oubliés de l'histoire. Quelque chose, par contre, une histoire un petit peu moins oubliée, si on y fait très attention, c'est celle des ouvriers, des salariés de PSA, de l'automobile, dont les emplois sont plus que menacés. On va les retrouver tout de suite avec Antoine Chao qui a retrouvé Agathe. Vous savez, notre amie Agathe qui se bat, elle et ses amis de la CGT, contre la destruction de ses emplois, avec cette phrase qu'on a entendue un peu partout, que vous avez évidemment remarqué, il est très difficile de se serrer la ceinture et en même temps de baisser son pantalon.
Les gens, Alors là, il est 6h du matin devant l'entrée du personnel de PSA Aulnay. Alors là, il y a un bus qui arrive, un car qui arrive. Il y a le piquet de grève ici devant l'entrée du personnel qui distribue des tracts. Et il y a Agathe qui est là devant les tourniquets d'entrée du personnel.
Aujourd'hui, on a l'occasion vraiment de se regrouper, de se bagarrer pour nos droits, pour la dignité aussi. Pour la dignité. Les patrons, ils veulent nous faire travailler dans des conditions pas possibles. Ils veulent se servir de vous, les intérimaires, pour faire les jaunes, ce qu'on appelle les jaunes dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire travailler à la place des grévistes. Par dignité, par respect pour nous aussi, ils réfléchissent à ça.
Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'intérimaires, c'est ça ?
Oui, il y a beaucoup d'intérimaires dans l'usine. Je crois qu'ils sont encore 400. Bon, je connais pas tous les intérimaires. C'est vrai que c'est fait aussi pour qu'on se rencontre pas, qu'on n'ait pas vraiment de lien. Mais là, je vois vraiment des têtes que j'avais jamais vues avant. Donc peut-être qu'ils ont fait venir des intérimaires aujourd'hui pour prendre les postes. Bon, je sais pas. Bon, alors ça tourne au ralenti. C'est aussi la guerre psychologique de ce côté-là. Si la direction, elle arrive à faire avancer quelques voitures, même si c'est pas le rythme habituel, pour elle, c'est une petite victoire. Pour nous, bon, mais en même temps, je me dis, si c'est quelques voitures, c'est vraiment du pipeau. Bon, Veritza, on a besoin de toi. Veritza, allez, reste avec nous aujourd'hui. Pour une fois, t'as l'occasion. Je sais, il pleut, c'est pas marrant, mais...
Qu'est-ce que tu veux faire, toi ?
Ah ben moi, tu sais ce que je fais. Moi, tu sais ce que je fais, je suis en grève. Faut que tu restes avec nous, que tu fasses ce geste-là.
La force des travailleurs ! C'est la grève ! La force des travailleurs ! C'est la grève !
Les camarades, ce matin, on a eu des provocations, des vigiles. On n'est pas tombé dedans. C'est ce qu'on risque d'avoir à l'intérieur. Il ne faut pas tomber dans les provocations. La direction, elle a ramené pas seulement des vigiles, elle a ramené aussi des cadres de Mulhouse, des cadres de Sochaux. C'est des boîtes qui ne ferment pas. C'est des boîtes où les RH, les cadres, ils ont un taf. Ils vont le garder. Alors ils viennent ici et puis ils vont dire aux gars... Continuez à bosser, l'usine va fermer, c'est pas grave. Eux, ils ont un boulot. Nous, on n'en aura peut-être plus d'ici quelques mois. Le problème, c'est que ces gars-là, ils vont nous suivre à la trace. Ils vont être au milieu de nous quand on ira discuter avec nos camarades de chaîne. Et ils vont essayer, y compris, de nous bousculer. Vous vous rappelez des méthodes des années 80 ? C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils cherchent la provocation. Nous, il ne faut pas tomber dans la provocation. Nous, notre grève, jusqu'à maintenant, elle a été digne. Ils veulent nous salir à l'extérieur, mais nous... On ne se laissera pas salir. Donc à l'intérieur, notre problème ce matin, c'est de retourner dans l'usine, c'est de la réoccuper, c'est de rediscuter avec nos camarades. Il y a nos camarades qui ont été, toute la semaine dernière, il y a deux semaines, il y a des cadres qui les ont harcelés au téléphone. Nous, on ne va pas aller les harceler, nous, on va aller discuter avec eux comme on a fait jusqu'à maintenant. Demain, les camarades, il y a des négociations. Ce qu'il faudra dire, y compris aux copains qui sont sur la chaîne, c'est leur dire, en période de négociation... C'est pas le moment où il faut reculer. D'accord, les copains ? Okay. Donc ils ont peur que notre grève se renforce. Donc c'est pour ça qu'ils essayent d'utiliser des mesures de rétorsion, que ce soit justice, avec des camarades qui vont être convoqués chez les flics, qu'avec des intimidations dans l'usine. Alors nous, pas question de se laisser faire, c'est eux qui ont peur.
Alors Agathe, vous rentrez, c'est ça ? Vous allez essayer de bloquer ?
Écoute, on va essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur. Ce qu'a dit Salah, expliquer ce qu'a dit Salah. Et puis grossir aussi, il y a tout un tas d'autres gars là que j'ai vu qui attendaient avec nous. Moi je suis contente, il y a quelques intérimaires aussi qui sont restés avec nous. Donc, et puis bon, on en convaincra d'autres.
Et si on leur laissait un peu de temps ? Si on leur laissait un peu de temps en Tunisie, en Égypte, parce que bon, nous, on fête régulièrement la belle révolution de 1789, tout ça, c'est très joli, hein. Mais bon, le droit des votes des femmes, c'est quand même arrivé un peu tard, vers 1945 ou comme ça, si je ne me trompe pas. La séparation de l'Église et de l'État, c'était vers 1905, hein, quand ça a commencé à être un petit peu formel. Puis encore, depuis le quinquennat Sarkozy, c'est revenu quand même un petit peu, les hommes politiques qui se positionnent comme croyants ou non. Donc bon... Puis la peine de mort, elle n'a pas été abolie il y a si longtemps que ça. Alors, 1789, 1905, 1945, 1981, il nous a fallu un peu de temps, puis c'est pas fini. Donc peut-être qu'on a le droit de leur laisser un peu plus qu'un an ou deux ans, et il faudrait pas qu'on l'oublie. Voilà.
Au large, aux joies du marin solitaire, libérant l'une de ses mains pour offrir, ému, à la mer, quelques gouttes de ses embruns. C'était le poète Hockey. Salut.
Les actualités françaises, 1955.
En Camargue, étrange étendue déposée par le Rhône à son embouchure, région de désolation et d'infinie mélancolie, terre d'élection du taureau, du gardien et du flamant rose, où le ciel et la mer nous privent d'horizon, les hommes de Provence ont décidé de faire reculer les frontières de la pauvreté et du pittoresque. Ils ont entrepris d'y adapter, au prix d'un incroyable remaniement, une culture inédite en France, celle du riz. Ces nouveaux pionniers ont d'abord creusé les milliers de canaux, ou roubines, qui amènent l'eau nécessaire aux rizières. Et en 1950, après 4 années d'expérience et de travaux gigantesques, la Camargue a produit 42 millions de kilos d'un riz excellent, c'est-à-dire 1,5 kg pour chaque Français. Et c'est ainsi que la Provence est devenue le grenier à riz de la France. Et ce n'est pas le moindre des événements qui concourent à l'épanouissement de ce phénomène du demi-siècle qui fait aujourd'hui de la Provence une terre de peuplement.
Est-ce que tu peux dire en vietnamien, si tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre?
Ah bon?
Tu connais ça?
Oui, oui.
Tu connais?
Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Quand on a mangé un fruit, il faut penser à ceux qui ont planté l'arbre.
Voilà. Génial.
Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao. Quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre.
Flight number 2, arriving from
New York. Ça, c'est le Grand Rhône ou le Petit Rhône, ça?
C'est le Grand Rhône, ça. Le Petit Rhône, c'est au Sainte-Marie-de-la-Mer, là-bas. Ça, c'est le Grand Rhône. C'est le bac de Barcarin. Il y a deux bacs qui fonctionnent, là, toute la journée. De 4h du matin à 2h du matin. Et on fait des passages tous les 10 minutes.
Mais comment quel morceau de mémoire a-t-il pu échapper à la sagacité des éclaireurs du peuple que nous sommes? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces 20 000 hommes venus du Vietnam, du Tonkin, de l'Annam, de Cochinchine, venus de gré pour quelques-uns, de force pour la plupart en 1939 et qui sont restés en France jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comment se peut-il que cette page d'histoire ait été à ce point occultée? La faculté d'occulter. Bien souvent, on a rencontré ce mystère dans nos reportages, dans les sujets de là-bas, si j'y suis. Je me souviens, par exemple, du village nègre à Lyon, dont plus personne ne se souvenait, un espace au milieu de la ville où se sont succédés toutes sortes de migrants, d'immigrés, italiens, maghrébins, roms, etc. Et puis un beau jour, on étoile l'endroit, comme on dit, et on construit et on oublie. Il avait fallu pas mal de travail pour trouver un homme qui se souvenait un peu. Des pages entières de l'histoire comme ça sont longtemps occultées. On peut évoquer la, la nuit du 17 octobre 1961. Moi aussi, j'ai fini par oublier et mélanger. Eh bien, là, c'est la même chose. On a oublié ou très peu se souviennent. Et puis voilà, il y a un confrère, journaliste, Pierre Daume, qui va nous expliquer comment il a retrouvé cette histoire et comment il s'est passionné pour cette histoire. Et comment, eh bien, aujourd'hui même, ce matin, dans la mairie d'Arles, 10 de ces hommes-là, encore vivants, ont pu être honoré, disons, par à la fois par la ville d'Arles, une cérémonie émouvante, on voit déjà les titres des journaux locaux, mais qui en dit très long sur nous, sur notre histoire et sur les raisons de cette occultation. On verra comment ces travailleurs forcés, venus de loin, avec leurs connaissances et leurs sciences de la culture du riz ont permis à un certain nombre de familles du coin de prospérer, de s'enrichir. C'était la guerre, il y avait le marché noir. Et c'est peut-être là l'une des raisons de cette si longue occultation. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre.
Chờ mong em trong phút giây chia ly, anh hàng chồng mong em ngày với đêm ra tendre le jour et la nuit, ra tendre ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. C'est pourtant, j'attendrai ton retour.
Alors moi, c'est vraiment le coup du hasard comme il en arrive régulièrement aux journalistes. C'était il y a 4 ou 5 ans, j'étais le correspondant de Libération dans le Languedoc-Roussillon et Libé m'envoie à Arles pour couvrir la fermeture de l'usine Lustucru. Il y avait 160 ouvriers sur le carreau qui occupaient l'usine et qui refusaient la fermeture de leur outil de travail. Or, cette usine Lustucru était celle qui conditionnait le riz camarguais. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour du côté des producteurs de riz en Camargue et pour leur demander quelles conséquences peut avoir pour eux la fermeture de l'usine Lustucru. Et en me promenant comme ça sur la route où nous sommes actuellement, qui est la route qui relie Arles à Saint-Lin-de-Giraud, en prenant sur cette route, je découvre un petit panneau qu'on va apercevoir d'ailleurs dans très peu de temps, une flèche écrit « Musée du riz ». Je vais voir. Et là, je tombe sur une vieille grange aménagée par un fils de producteur de riz qui raconte le riz en Camargue. Et dans un coin, je vois un panneau avec deux photos punaisées et un petit bout de texte. Et sur ce panneau, il est écrit que des Indochinois ont cultivé du riz en Camargue pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, je mène l'enquête avec cet objectif de retrouver le maximum d'anciens travailleurs indochinois encore en vie. Or, au départ, en 1939, il y a eu 20 000 hommes recrutés au Vietnam. Sur ces 20 000, il y en a environ un millier qui sont morts pendant l'époque de la guerre, la plupart de maladies, de pneumonies, notamment à cause de la malnutrition dont ils souffraient. Sur les 19 000 restants, il y en a 18 000 qui vont finir par être rapatriés au Vietnam, dans leur pays, entre 1948 et 1952, et il y en a un millier qui sont restés en France, la plupart parce qu'ils ont trouvé une femme et qu'ils ont fondé une famille. On parle quand même d'une histoire qui s'est passée il y a 70 ans. 1939-2009, ça fait 70 ans. Donc, les plus jeunes de ces hommes-là, qui sont encore vivants, ont minimum 90 ans. Et donc, j'en trouve 11 en France, et surtout au Vietnam, où sont la majorité d'entre eux. Et là, dans les villages les plus reculés du Vietnam, j'en retrouve 14. Et donc 14 au Vietnam plus 11 en France, ça me donne 25 témoins encore vivants de cette histoire, dont j'ai recueilli le témoignage et avec lequel j'ai créé en quelque sorte ce livre.
Alors Richard, c'est quoi ce livre ? Là, vous avez une pile de livres sur votre table.
Ben, c'est le livre de Pierre Dom. C'est ma fille qui me l'a offert. Elle a commencé à le lire, puis elle m'a dit « Non, cette histoire, elle est trop dure pour moi. » Elle m'a dit « Tiens, prends-le. » Je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai recommandé à mes frères. La révélation, c'est les conditions de travail extrêmement difficiles, et c'est un euphémisme, de cette population des travailleurs indochinois qui sont venus travailler sur les salins à la récolte du sel, quoi. On a le choix, c'est soit travailleur indochinois, soit ONS. C'est une abréviation de ouvrier non spécialisé. C'est l'équivalence, quoi. ONS, on ne sait pas d'où ça vient, mais travailleur indochinois, on sait où. Du Vietnam actuel, à l'origine, c'est de la NAM, puisque l'Indochine française regroupait le Laos, le Cambodge, le Tonkin, la NAM, dont est originaire mon père, et la colonie française, la seule colonie française en Indochine, qui était la Cochinchine, c'est-à-dire tout le delta du fleuve du Mekong. Les ONS, principalement, les travailleurs indochinois, sont venus d'Annam et du Tonkin, principalement. Sur 19 000 et quelques personnes, il y a eu 10 850 Vietnamiens annamites, et puis 6 500 Tonkinois, et environ 1600 Cochinchinois. Ce qu'on a découvert avec le livre de Pierre Dom, c'était surtout la culture du riz en Camargue. Ça a été une révélation. Voilà, ça a été une révélation.
Une révélation, voilà. C'est celui qui parle, c'est Richard Trine. À son accent, on ne croirait jamais, mais son père était l'un de ces travailleurs forcés venus de Cochinchine pour travailler. Certains peu de gré et beaucoup de force. 20 000 hommes ont été recrutés. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était la guerre et que ça supposait des hommes au front et ça supposait des hommes qui n'étaient plus dans les entreprises et il fallait des bras, tout simplement. D'où cette importation forcée. Et alors ensuite, occultation. Et puis, aujourd'hui même, Arles, reconnaissance. Richard Trine.
Alors moi, je suis Richard Trine. Je suis l'aîné des trois frères. Je suis le numéro 1, comme on dit au Vietnam. Là, c'est Claude, le numéro 2.
Voilà, on est chez le numéro 2, on est chez Claude. Donc, c'est à Salins de Giraud, c'est ça.
Alors, vous avez les taureaux derrière chez nous, là. Taureaux de combat, de mise à mort.
Alors, voilà, donc c'est la Camargue. Il y a des taureaux autour de chez
nous. Là, tout derrière, dans le champ, là. Ils sont derrière les arbres.
Ils sont derrière les arbres, là. Et dans un moment, on les verra bouger.
Voilà, là, on a la preuve. Il y a bien des taureaux en Camargue. Alors, voilà, moi, j'ai une question à vous poser, parce que votre père qui est venu, c'était pas un toréador. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici hein?
Non, c'était pas un toréador. Non, il est venu ici parce que sa compagnie a été affectée au travail du sel à Salins de Giraud.
Ah, voilà.
Voilà. J'avais la chance d'avoir le livret de travailleurs indochinois de mon père. Il est venu travailler à Salins de Giraud avec sa compagnie, la 73e compagnie, comme ce n'était pas le fils, mais le petit-fils de Mandarin, mon père. Il était doué, paraît-il qu'il était doué, très brillant. Ceci expliquant cela, quoi. Donc, et je pense qu'il a saisi l'occasion de cette réquisition qui s'est terminée par de la réquisition forcée, mais lui, il a profité de la réquisition pour venir en France.
Les actualités françaises.
5 novembre 1943.
Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles annamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. Par la décortication, le volume se réduit de 39% et le poids de moitié. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz. Notre pays essaie de s'adapter aux difficiles conditions actuelles.
Mon père est arrivé, il avait 24 ans. Et mon père est de 16 février 16. Il avait 24 ans, c'était pas un des plus jeunes. Mon père embarque à Saïgon le 4 mai 40, arrive à Marseille le 6 juin 40. Et 10 jours après, 11 jours après, la France capitule, Pétain signe l'armistice, la France est coupée en deux, le gouvernement siège à Bordeaux, qui est très rapidement remplacé par le gouvernement de Vichy, Pétain et Laval sont premiers ministres. Dès cet instant-là, tous ces gens qui sont venus n'avaient plus de raison de rester en France. C'était fini. L'objet de la réquisition, c'était du fait que les troupes françaises, la levée des troupes françaises créait un vide dans les entreprises. La réquisition a été nécessaire pour remplacer cette main-d'œuvre.
Et qu'au Vietnam, on appelle les Linto.
Les Linto. Les Linto, Lin, ça veut dire soldat, Ta, ça veut dire travailleur. C'était les soldats travailleurs. Ce qui était un peu plus bizarre, c'est que c'était des civils. Il y a eu des bateaux qui ont commencé à rapatrier les troupes.
Votre père, du coup, reste ici.
Voilà, dans la France qui a capitulé, mais dans la zone sud, c'est-à-dire la zone, entre guillemets, libre. Donc, il travaille quand même dans des poudreries. Il y a la poudrerie de Saint-Chamas qui a explosé, mais bon, il a travaillé là, jusqu'en juin 41. Et à partir de là, on l'a envoyé au Salin, à la récolte du sel.
Donc là, comment ça se passait? C'était les entreprises qui avaient besoin de main-d'œuvre, qui faisaient une demande à la MOI,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. La MOI, alors ça, il travaillait pour l'État. A été obligé de chercher des emplois pour ces travailleurs qui n'étaient plus employés dans les poudreries. Donc ils ont fait appel à des entreprises privées. Et il y en a eu qui ont été envoyés, plusieurs compagnies, travailler la culture du riz. Il existait des rizières, mais qui n'étaient que des rizières pour dessaler le sol avant la plantation de la vigne. Et eux, ils ont montré que ce n'était pas simplement des graines qu'on semait, ça poussait et qu'on pouvait couper pour donner à manger au bétail, mais que ça pouvait être une nourriture de subsistance. Et là, eux, ils ont montré comment il fallait repiquer le riz, l'entretenir.
Sur ce travail dans les rizicultures, on peut dire que le terme d'ONS ne convient plus, parce que ce n'était plus des ouvriers agricoles non spécialisés, mais des ouvriers agricoles très spécialisés.
Oui, c'était en termes de qualification professionnelle que vous parlez. Oui, mais en termes de statut social, c'était toujours des ONS, c'était toujours des requis. À l'heure actuelle, on ne parlerait pas d'ouvriers. On parlerait d'esclaves. Je crois que le mot esclave n'était pas galvaudé. C'est-à-dire, voilà, des gens qui viennent travailler quasiment gratuitement pour vous. Et que vous rémunérez d'une façon absolument scandaleuse.
บันอังเอ้ยบ่าสันจีริมจองรวมเมตรีสร้างบังเกิงสนายเพียงใดใส่เต้าเอาตูลบ้านโอนมีนเอาซ้อมปานเต้าตูลเอาประงาทลาย
Au mois de mai, il y a un touriste qui arrive. Il me dit, mais vous êtes... J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bouquin, Immigré de force? Il me dit, c'est Pierre Dom qui l'a sorti la semaine dernière.
Il me dit, je viens parce que vous y êtes au-dessus. Mais je dis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi de suite, je suis allé... J'ai envoyé ma femme l'acheter son bouquet. Je dis, c'est pas possible. Le Sambuc, c'est à 25 km d'Arles, la départementale 36. On est à 12 km des Salins.
Et voilà. Voilà où on est. On est avec Robert Bon. Robert Bon, c'est le patron du musée du riz. Et il le dit lui-même, franchement, il ne connaissait absolument pas cette histoire, ces hommes qui sont venus là. Une petite précision quand même qui n'a pas été encore apportée sur la façon dont ces hommes étaient recrutés. Au début, on a cherché des volontaires. Et puis comme les volontaires n'étaient pas assez nombreux, ben, ça a été des volontaires un peu forcés. Alors comment on s'y prenait pour les forcer? Eh bien, la règle était que chaque famille qui compte au moins deux hommes en âge de partir, entre 18 et 45 ans, devait fournir un à la France, sinon leur père était envoyé en prison. Et ainsi, 20 000 paysans ont été recrutés, puis expédiés en fond de cale vers la métropole afin de servir non pas de soldats, mais d'ouvriers dans les usines d'armement. Et c'était le service de la moille, mais pas la même moille que celle que vous connaissez. Là, c'était la main-d'œuvre indigène qui gérait ces hommes au sein du ministère du Travail, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui décide alors de louer cette main-d'œuvre à des entreprises privées. Usines de textile, industrie métallurgique, scierie, exploitation agricole, etc., qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Et c'était une main-d'œuvre avantageuse, on l'a évoqué, parce que les salaires étaient très bas et exemptés de charges sociales. Voilà, il y avait quand même quelque chose de très intéressant à utiliser ces bras-là. Donc on est au musée du riz chez le bon Robert Bon.
Robert, votre père, Joseph, il était originaire d'ici, de Camargue ?
Oui, oui, il est originaire de Camargue. Il a fait du riz à partir des années 40, 45, hein, au moment du riz. Hein. Parce que le riz n'est pas vieux en Camargue, il date que des années 40. Hein. On ne faisait pas du riz, on est les plus jeunes producteurs européens. Et encore, on faisait du riz simplement dans les années 1900 pour dessaler le terrain. Parce que Napoléon III nous avait joué un mauvais tour. Dans les années 1870, il a endigué les deux bras du Rhône. Le Grand Rhône, surtout pour le transport, et en même temps pour se protéger des crues du Rhône. Mais le Rhône, il avait formé 7 lits, il débordait 10-15 fois par an. Il apportait les alluvions et les limons. Mais du moment que c'est endigué, l'eau, elle part de Suisse, elle arrive à la mer, elle ne passe plus par la Camargue. Et comme on a deux fois plus d'évaporation que de précipitation, le sel, au bout de 30 ans, c'est-à-dire en 1900, c'était qu'un marais salant, la Camargue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait du riz. Mais on faisait du riz principalement pour dessaler. Parce que le riz résiste à 2 grammes de sel par litre. Et sa culture, pendant son cycle de 150 jours, elle amène entre 15 000 et 30 000 mètres cubes d'eau douce. Et il a fallu que les Indochinois, en 1940, nous mettent le pied à l'étrier, nous fassent voir que le riz bien semé, au bon moment, avec la bonne variété, ça faisait un des meilleurs riz du monde. Et depuis ce moment-là. Mais les Indochinois qui étaient là, on a 70 ans d'oubli, là. Et l'endroit où il y avait la plus grosse concentration, c'est à Sorgues, à côté d'Avignon. Autour de la Poudrerie, ils étaient 4000. Et ces gens-là, ils n'avaient qu'une envie, c'était de nous faire voir que le Mékong pourrait être comparé au Rhône, au delta du Rhône. Et c'est parti de là, je veux dire. C'est parti de là, et de 3 à 4000 hectares, le riz de Camargue, ça a été la ruée vers l'or. C'était les têtes pensantes d'Arles, que je garderai pour moi, mais sinon... C'était simplement que pour se faire un peu de blé, vendre du riz blanc au marché noir, ça pouvait être un bon plan. Et il y a quelques fortunes qui se sont créées. Jusqu'aux années 60, une récolte de riz, ça équivalait à l'achat de la propriété.
Mais dites-moi, votre père Joseph, il les a vus, ces Indochinois ici ou...
Personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Ça, c'est une opération fabuleuse parce qu'un soir, en décembre 2002, j'ai reçu un coup de fil de monsieur Lito, qui est décédé, peu cher, il y a un mois et demi. Et ce monsieur, il m'a incendié. Il m'a dit, vous connaissez pas votre histoire, il y a un copain à moi qui est venu chez vous, vous commencez toujours par votre causerie de dire que c'est les Camarguais qui ont commencé à faire du riz, et pourtant c'est nous. Alors être incendié par un Indochinois au téléphone, c'est dur. Qui avait à ce moment-là, en 2002, 87 ans, et il m'a expliqué toute l'histoire que je vous ai dit. Et ils sont restés chez nous de 1940 à 1947.
En Indochine, la population a commencé la récolte.
Les actualités françaises,
5 juillet 1951.
Autour des villages comme Pat Din et Ninbing, les paysans, rassurés par la présence des troupes de protection, travaillent paisiblement à la récolte du riz indispensable au ravitaillement du Vietnam. Ces gestes toujours renouvelés depuis des millénaires, ce même travail aussi vieux que la terre et les hommes d'Indochine, c'était cela que défendaient ceux qui ont payé le prix du sang pour que tout un peuple retrouve la paix.
Alors là, voilà le panneau posé sur un chevalet. Monsieur Bon Robert, directeur du musée du riz, 13 200 Sambuc, Arles. Faisant suite à ma communication téléphonique du 11 décembre 2002, je vous adresse quelques documents concernant l'origine historique de la culture du riz en Camargue pour vous permettre de réparer une erreur historique dans la mémoire de votre musée du riz à Sambuc. Dans votre enquête historique, il est regrettable que vous ayez occulté le souvenir des principaux artisans de l'implantation des rizières en Camargue. Ce fut l'œuvre des travailleurs de la 2e Légion indochinoise de la MOI, main d'œuvre indochinoise, en 1941 sous l'occupation allemande.
Ah oui, oui, ce monsieur, il mâchait pas ses mots. Hein.
Alors là, il y a une photo avec deux indochinois dans une rizière. Ouais. Des paysans vietnamiens ont réitéré avec bonheur leurs gestes ancestraux et apporté avec succès leur expérience traditionnelle dans les rizières de Camargue. Avec bonheur, on dirait presque du Nicolas Sarkozy, ça.
Ouais. Ouais, presque. Mais par contre, ça, c'est un journal qui passait pendant la guerre. Rizières en Camargue, vous voyez, où il compare le Mékong de 1943. S'il n'avait pas appelé au musée, on n'aurait jamais su cette histoire. Quoi. On n'aurait jamais su ça. Monsieur Lito, il est parti. Les autres, ils ont entre 90 et 100 ans. Quoi.
Ouais, ouais, y a la signature Lito. Mon témoignage itinéraire d'un petit mandarin, pour sa modeste part, constitue la première pierre d'une stèle commémorative en souvenir des Vietnamiens mis au service de la France durant les années noires de la longue histoire. Je rêve de la voir érigée aux abords des rizières de la Camargue en Provence. Monsieur le directeur, donc c'est vous,
oui. Hein,
vous pouvez certainement nous aider à concrétiser ce rêve. Il vous appartient simplement de rendre hommage et justice à ces Nyakwés, autrement dit paysans vietnamiens, en inscrivant leur mérite, leur dévouement, c'est leur solidarité au sommet de l'organigramme de votre musée du riz. Je termine cette lettre en vous dédiant ce proverbe vietnamien « Quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre. »
C'est bon pour tout, ça. Quand tu manges le fruit, pense à celui qui a planté l'arbre.
Donc malheureusement, Monsieur Lee ne verra pas, donc n'assistera pas à l'hommage qui va être rendu à ces ouvriers, à cette main-d'œuvre indigène requise pour la plupart de force,
et oui,
qui va avoir lieu ces jours-ci à Arles.
C'est trop tard parce qu'il est décédé. Il aurait aimé avant, ouais, il aurait aimé.
Ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm. Ngoài kia gió mây về ngàn. Cỏ cây chợt lên màu nắng. Chợt hồn buồn dâng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em. Mùa thu qua tay đã bao lần. Ngàn cây thắp nến lên hai hàng. Màu nắng bây giờ trong mắt em.
Comment que vous appelez Monsieur Dang, Libadang
ou... Dang ou Libadang, non, oui.
Ouais, c'est votre nom d'artiste aussi, c'est
oui,
ça.
Oui, mon artiste, c'est Libadang, oui.
Libadang, d'accord. Alors, on est dans votre atelier ici, hein.
Oui, mon atelier, oui.
D'accord, donc il y a toutes vos œuvres qui sont là.
Ah oui,
qui sont exposées dans les plus grands musées du monde.
Presque, oui.
Voilà.
Donc on essaie bien, hein.
Mais moi, ce qui m'amène, c'est autre chose.
Oui.
Alors, justement, je me suis arrêté là, à la boutique... Et j'ai acheté 2 paquets de riz de Camargue.
Ah, mais alors... mais c'est le riz de Camargue. Vous savez que c'était moi le premier qui plantait le riz à Camargue. J'étais venu en 42, je crois, ou 43, avec 25 personnes avec moi. On était 25. Et on dit, bon, on n'a pas de riz à manger. Alors, les gens qui nous encadrent, qui disent, mais pourquoi tu ne plantes pas le riz? Je dis, bon, où? Elle dit, mais là, à Camargue. Elle nous a amené pour voir. Et dit, on peut le planter le riz. Mais alors, on croyait à ce moment-là, vous savez, j'avais 19 ans, quoi. Ils m'ont amené à Camargue. Qu'est-ce qu'il a comme moustique? Et nous, en ce moment-là, on ne savait pas, vous savez, il nous a une petite baraque de rien du tout, quoi. C'est une petite baraque, certainement, les gens qui mettent des outils, quoi. Ils nous mettaient 25 dedans. Et on a fait le lit avec des bouts de bois, comme ça, on fait en 3 étages pour dormir. Et moi, je suis resté 2 ou 3 mois. Quand ça ne convient pas, je m'en vais. Et puis, je m'en vais. Et 5-6 mois après, il y a des gens qui travaillent avec moi à Arles, qui m'amenaient le premier kilo de riz. Ils ont raconté, ils m'ont apporté.
Ah, il était bon?
Ben, je ne me souviens plus, mais c'était formidable. C'était vraiment tout le monde, là, on l'a goûté, quoi. Mmh. Mais c'était formidable. Mmh. Ah, oui. Voilà, c'est le premier kilo de riz. Parce que moi, je me suis dit, mais moi, je suis du fils de planteur de riz. On a amené des graines de riz, on a planté, on a semé, on a planté. Mmh. Et c'était formidable, hein. Mmh. C'était les premiers, hein, les premiers.
Mmh. Tenez, donc, ça, c'est pour vous, voilà.
Ah, merci.
Un long et un rond.
Oh, c'est gentil, ça. Alors,
oh, bah, c'est gentil.
Ça, c'est gentil, ça. Moi, vous savez, un jour sans riz, pour moi, c'est un jour sans soleil, hein.
Ah oui?
Ah oui. Je suis parti, vous savez, depuis 39. Ça fait combien d'années, hein? Ça fait plus de 70 ans, hein.
Et voilà, et ce matin, eh bien, Libadang, monsieur Libadang, dont vous pouvez déduire d'après toutes ces indications l'âge qu'il peut avoir, était à Arles pour cette cérémonie avec 10 de sa génération pour participer à cette cérémonie de reconnaissance de l'existence de cette page d'histoire et un hommage à ceux qui ont fait en sorte que cette mémoire existe, à commencer peut-être par M. Li Utoki, qui est mort récemment, qui n'a pas pu assister à ce moment, mais qui disait « aucune rancune » et qui disait « je jette aux deux bras du Rhône rancœur et rancune ». C'est très beau, c'est très émouvant et c'est très têtu en même temps. Et là, ben voilà, c'est une contribution à faire exister cette mémoire. On revient à l'artiste, grand artiste célèbre au Vietnam, M. Libadang.
Vous étiez ce qu'on appelait les ONS, c'est
ONS,
ça?
Les ONS, oui, c'est les ouvriers non spécialisés. On était une colonie, alors ils nous amenaient comme ça. Ils ont forcé d'y aller. Moi, j'étais volontaire. Hein. J'étais volontaire parce que je voulais foutre le camp, quoi. Ça fait 3 mois pour venir à Marseille, dans un bateau qui s'appelle le Caffarella, je me souviens toujours. Et ils l'ont fait des étages, ils ont fait 3 étages comme ça, en bas, dans les cales. Hein, dans les cales. Et on a dormi à 3 étages comme ça, jusqu'à Marseille. Tous les repas, on a une espèce de grand plat comme ça, pour 10 personnes. Et pour manger ça, on mange toujours la même chose, quoi, c'est ça, oui. Mmh. Mais enfin, on a déjà mangé, c'est déjà pas mal. Mmh. À Marseille, il a les prisons, la Baumette. Et nous, ils nous ont casés dedans. Et à 3 étages aussi, comme ça. On dormait là. En mois ou 2, comme ça. Et puis ils nous amenaient partout. Ils m'ont amené à Roche-sur-Yon.
Vous faisiez quoi à la Roche-sur-Yon?
Rien. On vient d'arriver. 14 juin ou 15 juin, quelque chose comme ça. On a perdu la guerre, là. Mmh. Eh oui. Ouais. J'ai jamais vu une usine, jamais rien. Je préfère rentrer dans les musées des Beaux-Arts. Au Vietnam, personne ne savait que j'ai crevé de faim, que j'étais comme ça du tout. Hein. Maintenant, ils le savent. Mais maintenant, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent beaucoup parce qu'il y a des journaux, tout ça, et les gens parlent, les télévisions, tout ça. Mais ils ne savaient pas que j'étais... Ils ne savaient pas que j'étais comme ça. Ils me croyaient que j'étais un fils de riche qui était venu ici pour faire des études, quoi. C'était, oui, tout ça, oui. Je ne peux pas le cacher, mais enfin. Et oui, autrement, personne ne sait.
Aujourd'hui, La colonisation est quelque chose évidemment de péjoratif, mais dans ces années 30, à la fin de ces années 30, à quelques exceptions près, l'opinion générale trouvait tout cela tout à fait normal, que nous ayons un empire et que, ben voilà, que les nécessités nationales faisaient qu'il était tout à fait normal de faire venir des hommes d'aussi loin. Ça a été le cas pour d'autres colonies, souvenez-vous de la Première Guerre mondiale. On trouvait ça tout à fait naturel. Les choses ont changé, les choses ont évolué aujourd'hui. Reconnaissance donc de cette page oubliée. Et celui qui a beaucoup travaillé, qui continue d'ailleurs avec acharnement formidablement à travailler là-dessus, c'est le journaliste Pierre Dau.
Alors, cette main-d'œuvre indochinoise est ici dans des conditions pas très glorieuses pour la France, notamment pour la France de Vichy.
Oui, alors, tout de suite, une précision, ce n'est pas du tout que Vichy qui est responsable de cette histoire. Parce que ces hommes ont été recrutés en septembre 1939, c'était encore la Troisième République. Ensuite, Vichy a perpétué le système. Et à la Libération, ces hommes n'ont pas du tout retrouvé leur liberté ni leur patrie. Et donc, la France libérée de Gaulle a continué la situation scandaleuse dans laquelle ces hommes se trouvaient. Alors, pour revenir à Arles, c'est vrai que le maire d'Arles, Hervé Schiavetti, se retrouve à être le premier élu de la République française à reconnaître officiellement cette page d'histoire. Puisque donc, sur les 20 000 hommes du départ, il y en a environ 1500 qui ont été envoyés en Camargue. Un millier employés par l'usine Péchinet, qui est une usine privée qui exploitait le sel à Saint-Lin-de-Giraud, et 500 qui ont été envoyés à travers les masses de Camargue pour planter du riz et cultiver ce riz. Et là, il est sûr que les propriétaires de ces masses et la Camargue de façon générale ont bénéficié d'une main-d'œuvre extraordinairement spécialisée, puisque c'était vraiment des paysans vietnamiens qui étaient nés les pieds dans les rizières du Vietnam, qui savaient parfaitement cultiver le riz, qui se sont retrouvés employés dans les masses de Camargue. Et c'est grâce à ces Indochinois et en effet à leur connaissance de la culture du riz que les propriétaires des masses camarguées ont réussi à acquérir cette richesse. Et quand je dis richesse, c'est au sens extrêmement concret, puisque déjà pendant la guerre, donc la première récolte, c'est 42. Et ensuite, à la Libération, le riz, le kilo de riz camargué, dans une France qui avait faim, le kilo de riz camargué s'est vendu une fortune. Il y a eu un accroissement des richesses camarguaises grâce à ce riz et donc grâce à ces travailleurs indochinois. Et à ce titre, il est en effet tout à fait légitime qu'aujourd'hui, Arles, par la voix de son élu, rend hommage à ces hommes venus de si loin, la plupart contre leur gré, et qui ont permis à la Camargue d'accroître ses richesses.
Les actualités françaises.
La Camargue était jadis partout semblable à cette terre desséchée.
3 octobre 1956.
La Camargue est aujourd'hui le grenier à riz de la France. Depuis 1940, les canaux d'irrigation alimentés par le Rhône en ont fait une terre fertile où les rizières n'ont cessé de s'étendre. Cette année, la moisson, qui commence sur 23 000 hectares, va produire 80 à 90 000 tonnes de riz, de quoi satisfaire les besoins de la France entière. Arles, jeune capitale de cette culture nouvelle, a célébré dans son théâtre antique la fête des prémices du riz, qu'il faudra maintenant ajouter aux fêtes dont s'accompagnent les vendanges chaque automne.
Alors, une longue occultation que cette mémoire, il y a plusieurs raisons. Peut-être les travailleurs eux-mêmes, on le disait à l'instant, qui ne tiennent pas tellement à ce que ces choses peu glorieuses d'une vie soient évoquées trop quotidiennement. Mais il y a aussi évidemment ceux qui ont profité de la situation et qui ne tiennent pas non plus à ce qu'on remue trop le passé. Le témoignage de Yves Schmitt, qui est un riziculteur à la retraite et qui a travaillé à Méjane, qui est une très grande propriété de la région.
Ben, je m'appelle Yves Schmitt, ancien riziculteur. Je suis arlésien, plutôt camarguais de naissance. Je suis né au domaine de Méjane. Et Avant la guerre, on faisait du riz, c'est vrai. On faisait du riz pour dessaler les terres et le produit de cette plante était uniquement donné aux animaux. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Indochine et le Madagascar qui fournissaient le riz nécessaire à la consommation de l'Hexagone, quoi. Et donc, pendant la guerre, ça a été la disette. Donc on s'est dit quand même si on recommençait à faire du riz. Mais on a eu quand même la présence d'esprit d'aller en Italie pour se procurer des semences. Parce que les semences qu'on connaissait en Camargue, ce n'était que des brisures, c'était quelque chose qui n'était pas comestible, pratiquement, qui nous ont permis d'ensemencer les premières rizières consommables en Camargue.
Voilà. Ah donc c'est vraiment à Méjane que le premier riz consommable a été cultivé, vous pensez ?
Il y a eu Méjane par mon père qui a été tout à fait le début, et puis il y a eu d'autres riziculteurs. On en essaie aussi à côté, mais c'était surtout au domaine de Méjane, où, à l'époque, où on a quand même cultivé le riz. Avec une main-d'œuvre qui nous a été fournie à l'époque. On avait fait venir des travailleurs indochinois et on en a reçu sur le domaine de Méjane, entre autres, et beaucoup de propriétés en Camargue qui ont eu des petites fractions de personnel comme ça. Et puis ces gens-là étaient quand même habitués des rizières. Ça nous a quand même donné un bon coup de main de pouvoir avoir une main-d'œuvre, disons, qualifiée, mais eux travaillaient quand même d'une façon très archaïque. Et on se disait, tiens, quand même, par exemple, ils savaient travailler avec des trinques qu'on appelait. Pas la pelle, c'est pas la pelle comme on a ici, la pelle classique. Eux, ils travaillent. Ils arrivaient à boucher les passages d'eau, tout ça, très rapidement, en préparant un petit peu de boue sur le côté, et hop, immédiatement, ils ferment. Il y avait des techniques, ça, je vous cite celles-là, mais on les voyait faire à leur façon, qui nous ont apporté des choses aussi, quand même, dans nos connaissances, qu'on a abandonné par la suite, parce que la technique étant là, avec nos pelles hydrauliques, tout ça, évidemment. Bon, mais tout ce qui était manuel, là, ils nous ont apporté beaucoup, ça, c'est vrai. Et ça a commencé qu'à ce moment-là, que le riz était de l'or. On avait un sac de ciment pour un kilo de riz. Vous vous rendez compte ça, ce que ça valait. Donc il y a des gens avec très peu d'hectares qui ont fait fortune. Bon, je ne citerai pas de nom, parce que ce n'est pas la peine. Ces gens, la plupart sont décédés. Et j'ai connu des personnes qui ont eu une poussée, qui se sont retrouvées avec quelques hectares au départ, et avec plusieurs propriétés en Camargue. Au bout de 10 ans. Le gouvernement de Vichy, pour en revenir un peu en arrière, quand au début où on a fait le riz, on a cultivé le riz en Camargue, il était taxé par le gouvernement à 6 francs de l'époque. Mais il se vendait, c'est vrai, là on en vient au marché noir pendant la guerre, jusqu'à 100 francs le kilo. Vous voyez, quand même, déjà là aussi, ça donnait des possibilités de faire fortune plus rapidement. Ça, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître.
Bien évidemment, il ne s'agit pas de demander à Arles et aux Arlésiens de faire repentance de quoi que ce soit. Et ça, cette histoire de repentance, c'est un piège à con qui a été lancé par Sarkozy, nostalgique de la colonisation, pour biaiser le débat, puisque, en ce qui concerne le passé colonial, notamment de la France, la question fondamentale n'est pas du tout la question de la repentance. Les Français d'aujourd'hui n'ont pas à s'excuser d'actes condamnables des Français d'il y a un demi-siècle ou un siècle. La question aujourd'hui est celle de la reconnaissance.
Pierre Dôme.
C'est sur le débat de la reconnaissance qu'il faut porter toute notre attention. Et c'est là où l'exemple d'Arles est magnifique. Et c'est cela que réclament les derniers travailleurs indochinois. Ils ne réclament pas des excuses de la mairie d'Arles.
De la France, ouais.
Ou de la France, de façon plus générale. C'est ni des excuses, ni de l'argent. C'est simplement que, enfin, après 70 ans où personne n'a reconnu leur histoire, là, ils vont entendre que la France officielle reconnaît leur histoire. Et c'est aussi cela dont a besoin la France d'aujourd'hui. Que son passé, ses pages sombres de son passé soient reconnues. Et c'est une des raisons, par exemple, du racisme aujourd'hui en France contre les héritiers des peuples colonisés, je pense évidemment aux Maghrébins, ce racisme vient aussi du fait que la France officielle ne reconnaît pas son passé colonial. Et le jour où elle le reconnaîtra, le racisme contre les Maghrébins diminuera fondamentalement.
C'était un reportage d'Antoine Chao, déjà diffusé le 10 décembre 2009. Le livre de Pierre Daume, « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France de 1939 à 1952 » paru chez Actes Sud, est toujours disponible à la vente. Un documentaire inspiré de cette histoire oubliée sort d'ailleurs cette semaine. Il s'agit de « Kong Bin, la longue nuit indochinoise » réalisé par Lam Lee. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée par Lucie Akoun et Chloé Sanchez et préparée par Grégory Salamonovitch. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Gaël Braouzek.
Futuroscope. Dis, tu m'emmènes à ta robot-partie au Futuroscope ?
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge ?
Oh, s'il te plaît !
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot-partie par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Faites vite, moins 20% sur les séjours pour une réservation jusqu'au 3 février.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France Inter présente « À perdre la raison » de Joachim Lafosse en double DVD. Muriel et Mounir s'installent chez le docteur Pinger, le père adoptif de Mounir. La dépendance matérielle envers le médecin devient excessive.
T'es pas si mal ici, non ? Je manque de rien.
À perdre la raison, de Joachim Lafosse, un double DVD France Inter.
Slavery, sir. It's done.
France Inter présente Lincoln, le nouveau film de Steven Spielberg. 12 nominations aux Oscars, au cinéma le 30 janvier. Avec Daniel Day-Lewis, Golden Globe du meilleur acteur, Sally Field et Tommy Lee Jones.
Even worthless, unworthy you ought to be treated equally before the law.
Le combat d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, pour faire adopter le 13e amendement abolissant l'esclavage. Retrouvez Lincoln de Steven Spielberg dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Toute l'équipe de Là-bas, si j'y suis, attend vos messages au 01 56 40 37 37. Pour l'heure, il est 16h. Les informations vous sont présentées par Laetitia Gaillet.
Les combattants du mouvement national de libération de l'Azawad affirment aujourd'hui contrôler la ville de Kidal au nord du Mali. A priori, elle aurait été désertée par leurs anciens alliés islamistes. Le MNLA, d'obédience laïque, se bat pour l'autodétermination et l'indépendance du nord Mali qu'il appelle justement l'Azawad. Les forces françaises et maliennes, elles, contrôlent depuis ce matin Tombouctou. Du côté des aides, la Grande-Bretagne a confirmé aujourd'hui à François Hollande qu'elle était prête à aider davantage la France au Mali. Mais l'aide sera uniquement matérielle. De leur côté, les chefs d'État de l'Union africaine, réunis aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie, assurent que la force africaine aura besoin de 460 millions de dollars. L'UA va pour sa part débloquer 50 premiers millions pour financer le déploiement de la MISMA, la mission africaine au Mali. L'opposition à Mohamed Morsi n'ira pas ce soir à la réunion proposée par le président égyptien. Elle refuse le dialogue, considérant que l'initiative de Mohamed Morsi est cosmétique et superficielle, selon Mohamed El Baradei. D'autant que l'état d'urgence a été décrété pour 30 jours dans 3 villes et que le gouvernement a approuvé aujourd'hui un projet de loi qui autorise Mohamed Morsi à demander l'aide de l'armée égyptienne pour maintenir l'ordre dans les rues. Au lendemain d'un week-end où une cinquantaine de personnes sont mortes dans des affrontements avec la police, la principale coalition de l'opposition appelle les Égyptiens maintenant à manifester dans tout le pays vendredi. La tragédie de Santa Maria au Brésil n'a rien à voir avec la sécurité des stades du Mondial de 2014. La mise au point cet après-midi du secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, à Brasilia où une cérémonie était prévue aujourd'hui pour marquer le compte à rebours des 500 jours avant la Coupe du Monde de football. Les drapeaux ont été mis en berne et un deuil de 3 jours a été décrété. Dans le même temps, à Santa Maria où s'est déroulée la tragédie, aujourd'hui on commence à enterrer les morts. Plus de 230 personnes sont mortes dans l'incendie de la discothèque samedi soir. 3 personnes ont été interpellé aujourd'hui, le propriétaire des lieux et 2 membres du groupe qui s'y produisaient. Ils vont devoir s'expliquer sur la cascade d'imprudence et de négligence à l'origine de la catastrophe. Selon les témoignages, l'incendie a été provoqué par un spectacle pyrotechnique. Quant à la licence de la discothèque, elle était périmée depuis le mois d'août. De nombreux témoins ont par ailleurs rapporté que les issues de secours étaient bloquées et que les vigiles du groupe ont dans un premier temps empêché de sortir les premiers clients. En France, 180 grévistes pour la direction, 400 pour la CGT à chacun ses comptes pour l'usine PSA d'Aulnay. En tout cas, le travail a repris ce matin après 10 jours d'arrêt dans une ambiance plutôt tendue. 200 cadres de Peugeot Citroën sont venus en renfort à la demande de la direction, mais la chaîne de production, elle, était bloquée par les grévistes. Oui, Anne Lauvergeon va bien intégrer le conseil d'administration du géant de l'aéronautique EADS, mais elle ne quittera pas pour autant le comité de pilotage du débat sur la transition énergétique, explique aujourd'hui Delphine Bateau, la ministre de l'écologie. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les matins, à partir de 10h, Service public, Guillaume Herner.
Second épisode de cette semaine que Service public consacre à l'emploi. Tandis que l'industrie débauche, certains secteurs en France embauchent. Qui recrute ? Quels sont les profils convoités aujourd'hui et recherchés pour demain ? Venez parler de votre CV actuel et futur au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes Service Public FI.
Service Public. Demain sur France Inter à partir de 10h.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Clodéon, c'est lundi, on y va.
Bonjour Laetitia Gaillet, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On ne parle que d'elle. Elle, ben c'est la musique française et la musique espagnole. Au programme, ça s'appelle d'ailleurs l'heure exquise plus globalement, au programme donc de la folle journée de Nantes. La folle journée, ben, elle dure presque une semaine maintenant, tellement elle a du succès. Ça commence mercredi, ça se termine dimanche et ça a déjà eu lieu dans les pays de la Loire, en région. Et évidemment, il y a eu un très grand succès déjà à Laval, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Cholet, Fontevraud, Saumur, etc. Saint-Nazaire, où il y a un si beau pont, Chaland, il y a de si bons canards. Et donc voilà, c'est une histoire qui tourne magnifiquement, bien sûr, grand rassemblement de musiciens, de cultures au pluriel. Et même si on n'est pas dans la région des Pays de la Loire, à Nantes, ou à Angers, ou dans ces belles contrées, eh bien on peut quand même entendre de la musique française. Et ce sera l'Orchestre de Lyon, dirigé par Leonard Slatkin, qui va proposer demain un concert à la salle Pleyel, à 20h, demain mardi. Et il y aura Maurice Ravel, la charmante Heure espagnole en version de concert, et puis L'enfant et les sortilèges. Alors beaucoup de parents connaissent cette œuvre-là, on en a parlé récemment avec Annick Massis qui chante plusieurs personnages. C'est l'histoire d'un gamin qui se tient mal et qui est rabroué par les objets qui se mettent à vivre autour de lui. Il va se calmer et évidemment être consolé par sa maman. En tout cas, c'est du meilleur Ravel. Et je vous propose d'entendre l'Orchestre de Lyon, justement, dans Alborada del Gracioso, c'est-à-dire l'Aubade du Bouffon. C'est une pièce au départ pour le piano qui a été orchestrée pour le fameux Diaghilev, le fameux maître des ballets russes. Alors voici cette interprétation. Thank you. Au bas du Bouffon, Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, donc une pièce un tout petit peu maléfique par moments. Ce Bouffon n'est pas gentil, pas toujours en tout cas, il se moque des autres, il est grinçant, c'est un personnage qui existait dans la comédie espagnole bien avant Maurice Ravel. Et là, il en a fait une pièce somptueuse, d'abord pour le piano, ensuite pour l'orchestre, et nous avons pu admirer l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Leonard Slatkin.